Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Nadine Jasmin, spécialiste des questions d'égalité femmes-hommes. Bonjour Nadine.
Bonjour.
Nadine, nous venons de faire ensemble 3 émissions abordant le sujet de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Pour cela, nous avons abordé divers sujets comme par exemple les bonnes pratiques de l'égalité professionnelle dans la fonction publique territoriale, l'égalité salariale femmes-hommes ou encore la parité politique au travail. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le sujet des outils juridiques mis à disposition des collectivités dans le cadre de l'égalité professionnelle femmes-hommes. On y va ?
On y va.
Nadine, on parle beaucoup avec la loi de transformation de la fonction publique d'égalité professionnelle femmes-hommes. Mais il me semble que les collectivités qui souhaitent se lancer dans une démarche d'égalité ne savent pas forcément comment s'y prendre. Qu'en pensez-vous ?
Effectivement, on ne sait pas toujours par où commencer et je parlerai ailleurs de la manière dont les collectivités, dans une émission suivante, elles peuvent se lancer dans une démarche d'égalité, mais ce que je voudrais rappeler ici, c'est le cadre légal, à savoir qu'il y a des lois en faveur de l'égalité et que ce sont ces lois qu'on doit commencer par mobiliser. Il y a deux manières de vivre le droit, en fait, soit vous le vivez comme une contrainte, soit comme une opportunité, et aux collectivités d'en faire une opportunité pour mener leur démarche d'égalité. J'ai envie de citer Réjeanne Sénac, qui est une politologue spécialiste des questions d'égalité et de discrimination, et qui répond toujours, quand on lui demande quelle bonne pratique adopter, la première bonne pratique, c'est de respecter la loi. Et c'est vrai que le droit français est bien outillé sur la question, et si on respectait la loi, rien que la loi, toute la loi, les inégalités auraient disparu depuis longtemps.
Justement, pourriez-vous nous rappeler les lois phares de l'égalité femmes-hommes ?
Alors, c'est vrai que d'un point de vue historique, le droit de l'égalité s'est construit depuis la guerre autour de quelles problématiques centrales ? L'accès au droit politique, l'égalité professionnelle, le droit des femmes à disposer de leur corps. Il y a eu beaucoup de lois qui ont traité de l'égalité depuis la Constitution de 1946, qui stipule l'égalité des droits entre femmes et hommes dans tous les domaines, jusqu'à la dernière loi en date à ce jour du 6 août 2019. Alors, je ne vais pas énumérer toutes les lois parce que ce serait fastidieux, il y en a vraiment beaucoup. Mais je vais rappeler l'essentiel en ce qui concerne la fonction publique et les collectivités territoriales. Et là, je vais adopter une perspective plutôt chronologique. Le premier droit assez récent qui s'est exercé, c'est celui de la discrimination qui est issu du droit européen. Il s'inscrit pour les fonctionnaires dans la loi Le Port de 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires. Il y a un certain nombre de critères prohibés de discrimination qui sont retenus par la loi et certains se rapprochent des questions justement de sexe, à savoir critères prohibés, le sexe, le genre, l'orientation sexuelle, l'état de grossesse, la situation de famille et toute discrimination à raison de ces critères dans quelque domaine que ce soit, le travail, l'éducation, la santé, le logement, l'accès aux services publics, donc toute discrimination sur ces critères est strictement interdite et réprimée par la loi. Donc ça, c'est un premier cadre juridique qu'on peut mobiliser. Pour la fonction publique territoriale, il y a un autre cadre, c'est le cadre général de l'égalité dans les territoires. Et ça, on doit ce cadre à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Dans cette loi du 4 août, il y a obligation de conduire une politique d'égalité globale. Alors en particulier dans l'article 1, qui concerne toutes les collectivités territoriales, tenues, je cite, de mettre en œuvre une politique d'égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée dans le domaine des violences faites aux femmes, de la santé, de la sexualité, de la précarité, de l'égalité professionnelle, de l'accès aux responsabilités politiques, professionnelles, sociales, de l'accès à la création artistique et culturelle et des stéréotypes. Donc vous voyez que le champ est tout à fait large. Et l'article 61 de la même loi instaure, je cite là aussi le titre légal, un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ce rapport est obligatoire dans toutes les communes de 20 000 habitants minimum et doit être présenté par le ou la maire préalablement au débat sur le projet de budget.
Bien, Nadine, à propos de l'égalité professionnelle proprement dite, que dit la loi?
Alors, l'égalité professionnelle, elle a été traitée à de nombreuses reprises et c'est surtout le grand thème de la première loi du genre, 1900, enfin presque première loi du genre, loi Roudy en 1983, reprise par la loi Génisson en 2001, complétée par la loi Sauvadet en 2012, la loi Vallaud-Belkacem de 2014, la dernière loi en date du 6 août 2019, et puis des protocoles d'accords d'égalité professionnelle dans la fonction publique en 2013 et en 2018. Alors, petit à petit, donc, ces lois se sont complétées les unes les autres pour étoffer toujours l'arsenal juridique. Que disent ces lois? D'abord, elles instaurent l'égalité salariale entre femmes et hommes, avec un principe important, à travail égal, salaire égal. La toute première loi du genre datait de 1972 et la dernière de 2019. Autant dire que le compte n'y est pas. Quand on multiplie les lois, ça veut dire justement qu'on ne parvient pas à ses objectifs. Les collectivités sont tenues de mesurer les inégalités de rémunération et de mettre en œuvre des actions assorties d'objectifs chiffrés pour les résorber. Ça, c'était les premières lois. Ensuite, les lois favorisent ce qu'on appelle l'action positive, avec un dispositif de nomination équilibré en faveur du sexe qui est sous-représenté dans les emplois de direction, dans les jurys ou les instances de sélection. Un dispositif qu'on appelle dispositif d'avancement équilibré permet également d'intégrer la part des femmes dans les viviers d'agents promouvables à l'avancement. Et tous ces dispositifs concernent les collectivités de 40 000 habitants minimum. Dans les lois les plus récentes, elles mettent en œuvre, en tout cas s'intéressent à la problématique de la parentalité et traitent en particulier des situations de grossesse, congé maternité, congé parental et temps partiel qui sont souvent des creusets d'inégalité entre les femmes et les hommes. Et puis, la dernière nouveauté de la loi de 2019, c'est que le rapport de situation comparée dont on parlait il y a un instant s'accompagne maintenant obligatoirement d'un plan d'action pluriannuel. Et le dernier axe de la loi traite des violences sexistes et sexuelles, avec l'obligation pour les collectivités de mettre en place un dispositif de signalement, de traitement des cas de discrimination, de harcèlement et de violence.
Concrètement, comment faire appliquer la loi?
Je pense que les collectivités territoriales doivent vraiment s'appuyer sur ces contraintes légales et ne pas hésiter à mobiliser le droit quand c'est nécessaire. Il y a des situations qui sont pas négociables, à mon sens. La discrimination, le harcèlement sexiste ou sexuel, les inégalités salariales. Et c'est vrai que souvent les collectivités sont frileuses pour entamer des procédures à l'encontre de leur personnel. Et on comprend bien que c'est pas une démarche facile, hein, bien sûr, à initier. Mais, à contrario, moi je vois encore beaucoup trop de cas de solitude, de détresse, d'agentes qui sont confrontées à des situations difficiles, qui ne peuvent pas s'appuyer sur leur hiérarchie pour faire cesser le harcèlement ou mettre fin à des inégalités flagrantes et vraiment des agentes qui se retrouvent dans des situations très très compliquées qui peuvent être source d'un mal-être moral et avec des conséquences d'ailleurs physiques profondes. Donc la fonction publique, je pense, a une responsabilité, un devoir d'exemplarité. D'appliquer, de faire appliquer la loi, c'est un devoir légal d'abord, et puis c'est aussi un devoir moral. Et je rappellerai que l'employeur n'a pas seulement une obligation de moyens, mais une obligation de résultats dans le domaine de la santé au travail. Ce qui veut dire que la collectivité doit vraiment penser dans ce sens ses procédures de prévention et de traitement des inégalités et des violences, qu'elle doit mener dans ce sens la réflexion sur ses conditions de travail et sur l'organisation des services. Et moi, à titre personnel, je pense pas que ce soit une contrainte. Évidemment, il faut l'intégrer, mais j'y vois plutôt une opportunité d'améliorer le fonctionnement des services, d'accroître le bien-être au travail et, du coup, d'améliorer le service public. Et puis, accompagner la loi pour la faire appliquer, c'est aussi de former les personnels et surtout les responsables sur les discriminations, sur l'égalité professionnelle, sur le plafond de verre, sur les stéréotypes. Et la collectivité respectera d'autant plus et d'autant mieux la loi qu'elle construira et qu'elle diffusera une culture de l'égalité au sein des services, bien sûr, à l'interne et sur son territoire. Et cette culture de l'égalité doit devenir petit à petit un réflexe qui soit partagé par les acteurs, par les actrices territoriaux, par les personnels, par les responsables, par les élus politiques, par les représentants du personnel, les partenaires territoriaux, puis évidemment les habitantes et les habitants également. Et j'en profite pour rappeler que la loi du 6 août 2019 instaure un fonds consacrée à des actions de prévention et de lutte contre les inégalités qui permettent justement de développer cette culture de l'égalité de manière à ce qu'on se mette vraiment à mobiliser le droit au service de l'égalité.
Nadine, d'autres cadres existent. Que peut-on mobiliser à part la loi pour favoriser l'égalité femmes-hommes ?
Alors, je répondrai comme le font les sciences politiques, avec une distinction entre la ce qu'on appelle la hard law, c'est-à-dire les lois dures, et la soft law, les lois douces. Et la différence entre les deux, c'est que la première est contraignante et l'autre seulement incitative. Et la soft law, la loi douce, donc, repose sur une démarche volontariste qui engage la responsabilité, certes morale, mais pas légale stricto sensu, de l'institution, de la structure qui décide de la mettre en œuvre. Alors, il existe à ce jour plusieurs instruments qui relèvent de la soft law. Il y a les chartes et il y a les labels. La charte la plus complète, je pense celle qui est la plus connue dans le domaine, c'est la charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale, qui est portée par l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe. Voilà, c'est souvent celle-ci que les collectivités mobilisent quand elles s'engagent dans une démarche. Et puis, il existe des chartes plus spécifiques qui relèvent du secteur privé, mais bien sûr qui peuvent être signées par les collectivités territoriales également. Par exemple, la charte de la parentalité en entreprise, qui est portée par l'Observatoire de la qualité de vie au travail. Il y a des conventions qui ont pu être portées, abandonnées, transformées, mais on peut mobiliser aussi des retours d'expérience autour de ces conventions. Par exemple, dans 2012-2013, il y avait une convention territoire d'excellence pour l'égalité professionnelle. Et puis, il y a aussi des labels privés décernés par la FNOR. Et je pense en particulier au label égalité professionnelle qui a été créé en 2004, qui a déjà donc une certaine ancienneté et dont un certain nombre de collectivités sont signataires. Alors, il y a des conseils régionaux, des métropoles, Bretagne, Rennes Métropole, Bordeaux, Dijon. Il y a des villes également, Rennes, Suresnes, des ministères, des centres hospitaliers, des écoles supérieures, voilà. Et puis, il y a un label qui peut aussi, qui s'inscrit dans la même perspective, qui est le label Diversité de la FNOR, qui porte sur la prévention des discriminations, sur l'égalité des chances et la diversité, et qui peut être complémentaire du label Égalité dont je parlais tout à l'heure. Avec quand même une précaution d'usage, les politiques d'égalité femmes-hommes ne sont pas ce qu'on appelle la diversité, parce que les femmes représentent quand même 50% de la population, donc à ce titre, je ne sais pas si on peut parler vraiment de diversité. Voilà, mais il faut savoir qu'il y a des labels très complémentaires les uns des autres.
Alors, si je vous ai bien écouté, Nadine, des chartes et des labels existent, mais concrètement, comment ça fonctionne ?
Alors, ils présentent tous un cahier des charges qui est plus ou moins souple ou contraignant et que l'organisme signataire doit respecter pour pouvoir être certifié ou adhérer. Par exemple, le label égalité professionnelle de la FNOR comporte 6 domaines, du diagnostic à l'évaluation, donc et des étapes également, en passant par l'élaboration d'un plan d'action, d'un plan de formation et d'un plan de communication à l'interne et à l'externe. Et il concerne un certain nombre de champs, le recrutement, les instances de décision, l'intégration des personnels, la gestion des carrières, l'égalité salariale, la mixité, l'articulation des temps de vie professionnels personnels, la mobilité géographique, etc. Et puis, il peut y avoir aussi des aspects méthodologiques contraignants, par exemple, l'obligation de désigner un ou plusieurs référents égalité au sein de la structure, ou le fait de signer un accord égalité avec les partenaires sociaux. Donc, il y a dépôt d'un dossier de candidature. Ensuite, la structure bénéficie d'un audit sur site de la part de la FNOR, et au regard de cet audit, la commission de la FNOR prend la décision de labelliser la structure pour 4 ans, avec un audit intermédiaire à 24 mois. Et en gros, c'est le principe qui prévaut pour la plupart des chartes et des labels.
À vous entendre, il faut une sacrée motivation pour arriver à remplir tous ces dossiers qui ont l'air assez complexes.
Oui et non, parce qu'il y a aussi un appui méthodologique d'une part, donc les collectivités sont pas tout à fait livrées à elles-mêmes. Il peut y avoir du conseil, de l'accompagnement sur ces dossiers. Donc, a priori, si on le fait sérieusement, ce n'est pas une usine à gaz. C'est au contraire l'occasion vraiment de faire un diagnostic tout à fait précis de sa collectivité et à partir de là, d'engager des actions. Pour la charte européenne, c'est pareil, c'est un peu le même principe. Enfin, c'est le même principe. Elle est beaucoup plus large quand même que le label égalité professionnelle parce qu'elle touche à tous les aspects de l'action publique, l'éducation, la santé, les services sociaux, le logement, la culture, les sports, les loisirs, la sécurité, la mobilité, l'emploi, enfin tous les secteurs qui relèvent de la collectivité et des champs de compétences des collectivités territoriales. Et cette charte européenne affirme, je la cite, « la responsabilité démocratique d'assurer la représentation et la participation des femmes dans toutes les sphères de la prise de décision politique et publique ». Je cite de nouveau la charte, elle vise à promouvoir et favoriser l'application de ce droit dans toutes les sphères d'activité de la collectivité et dans tous les rôles également de la collectivité, représentant démocratique de la communauté locale, pourvoyeur et commanditeur de services, planificateur et régulateur et employeur. Voilà. Alors la démarche n'est pas tout à fait la même que pour le label AFNOR dont je parlais tout à l'heure, puisque la charte européenne, elle, pose quelques principes méthodologiques larges, en particulier ce qu'on appelle l'approche intégrée, le mainstreaming, et le budget intégré, le gender budgeting. Alors, je consacrerai une émission aux questions de budget, mais simplement trois mots pour vous indiquer en quoi ça consiste. L'idée, c'est d'intégrer la dimension du genre, c'est-à-dire de bien observer les inégalités entre les femmes et les hommes. Donc, intégrer cette dimension du genre dans l'élaboration et dans l'évaluation de toutes les politiques publiques, y compris dans la conception et l'analyse des budgets. C'est-à-dire que la collectivité procède à des analyses sexuées et s'engage à lutter contre toutes les discriminations et contre tous les stéréotypes de genre. Donc, comment ça se passe pour la charte? Très concrètement, la collectivité s'engage dans les 2 ans maximum suivant la signature de la charte, donc ça ressemble un petit peu à l'audit intermédiaire de l'AFNOR, à concevoir et à mettre en œuvre un plan d'action avec, bien sûr, des objectifs, des mesures, des ressources et un calendrier. La collectivité s'engage aussi à mener des larges consultations dans l'élaboration du plan d'action, à le diffuser, à l'évaluer et à communiquer de manière régulière, à la fois sur son engagement et sur ses actions. Et depuis 2012, un observatoire de la charte intervient sur l'élaboration du plan d'action, son suivi et son évaluation. C'est pour ça que je vous disais qu'on n'est pas dans la nature, que la collectivité a vraiment des appuis méthodologiques pour mener à bien ce travail.
Effectivement. Mais quel est l'intérêt pour une collectivité de signer une charte ou un label? Pourquoi ne pas se contenter d'appliquer la loi?
Alors, d'abord je vous rejoins, si je repense à Régine Sénac, appliquer la loi c'est vraiment l'essentiel de la démarche. Mais en même temps, ce qui caractérise les outils de la loi douce, c'est qu'ils ne sont pas contraignants au sens légal, qu'ils n'ont rien d'obligatoire, et ça peut être rassurant pour une collectivité de commencer par là. Avec la charte européenne, la collectivité avance à son rythme, dans les domaines qu'elle a choisis, avec des actions de terrain qui prennent en compte l'état du territoire et l'organisation interne de la collectivité. Et puis, la charte européenne offre l'intérêt d'un soutien, je l'ai dit, méthodologique et aussi d'un maillage territorial. Elle est portée par une institution qui organise des rencontres, des échanges de pratiques, des retours d'expérience. Et cet effet de réseau, c'est vraiment toujours précieux dans le domaine de l'égalité, qui est un domaine, ou en tout cas une problématique qui est souvent considérée, malheureusement, comme non prioritaire pour les collectivités. Et puis, je pense que signer la charte européenne présente d'autres avantages. D'abord, cela impulse et nourrit une démarche interne, à partir d'un état des lieux détaillé. Ça permet à la collectivité de faire un diagnostic, donc de voir où elle en est, ce qu'elle doit travailler, ce qu'elle doit améliorer, mais aussi de voir ses points forts, de voir ce qui est déjà fait sur le territoire ou à l'interne. Parce que finalement, il y a des collectivités qui font de l'égalité sans vraiment se le dire, sans vraiment le savoir. Je me souviens d'une mairesse qui se défendait vraiment de tout d'approche féministe, qui voulait qu'on l'appelle Madame le maire, mais en fait qui œuvrait à l'égalité professionnelle de manière tout à fait active et dont la collectivité était exemplaire dans certains domaines. Donc poser ce diagnostic, faire cet état de lieu imposé par la charte, ça permet aussi de valoriser l'existant. Et puis un autre avantage de la charte, c'est sa dimension d'engagement, sur lequel j'ai l'impression en général qu'on ne revient pas. C'est-à-dire qu'une fois signataire, c'est un peu difficile pour une collectivité de revenir en arrière, même quand la municipalité change de couleur politique. Et du coup, c'est une démarche qui permet d'acculturer les personnels, les services, les élus. Je dirais que l'appétit vient en mangeant. Et que être signataire de la charte, c'est un engagement moral qui va être porté aussi par le reste du territoire. Par exemple, des associations territoriales peuvent être leviers partenaires de la démarche, pourront se faire entendre auprès de la collectivité aussi pour accompagner, participer à cette dynamique d'égalité qui s'enclenche sur le territoire. Et puis, j'ai un dernier avantage au fait de signer une charte ou un label pour une collectivité, c'est que c'est toujours très positif en termes d'image. Alors, il y a des territoires dont on a l'impression parfois qu'ils collectionnent les labels, mais je pense vraiment que ça leur permet souvent de mener des politiques qui sont plus ouvertes, plus innovantes, et que ça, c'est aussi un argument auprès des personnels. Je me souviens d'avoir rencontré une jeune femme cadre, par exemple, dans le secteur de la communication, et qui postulait auprès d'une collectivité signataire de la charte européenne, justement parce qu'elle appréciait la réelle sensibilité de cette ville aux problématiques d'égalité et de discrimination. Donc c'était aussi un facteur, je dirais, alors peut-être pas de séduction, mais d'attrait pour la collectivité auprès des personnels à l'extérieur, autant qu'auprès des habitants.
Ouais, effectivement, mais alors là, on a vu tout ce qui est paradis. Maintenant, est-ce qu'il y a des inconvénients? Est-ce qu'il y en a? C'était vraiment des inconvénients.
Alors, signer une charte ou un label ne génère en soi aucun inconvénient. Mais par contre, la dimension non contraignante de ces outils peut évidemment être à double tranchant. Alors, c'est plutôt rare, d'après ce que j'ai observé, mais il peut arriver, c'est même très rare, que la collectivité soit dans un effet d'image plutôt que dans une vraie démarche collective et co-construite. Un maire ou une mairesse qui veut absolument obtenir son label, alors que la collectivité n'est pas mûre pour porter la démarche et qu'il fait de manière un petit peu opportuniste, risque de se heurter à des résistances, à de l'inertie, qui vont paralyser ou en tout cas limiter la démarche. Voilà, ça ne doit pas être du gender washing, comme on dit du green washing, pour désigner la manière dont certaines entreprises redorent leur blason, en quelque sorte, en blanchissant ou en verdissant plutôt leur image. Et c'est vrai que, historiquement parlant, la soft law, la loi douce, a pu être la réponse ou le paravent de certaines branches professionnelles qui essayent parfois de, sinon contrer, du moins en tout cas de retarder des lois, des normes, des obligations légales en proposant des procédures d'auto-régulation. Et donc, il faut bien voir que la soft law, parfois, a une visée un peu manipulatrice, parce que c'est plutôt une manière de couper l'herbe sous le pied des politiques en s'engageant à minima de manière à ne pas se faire imposer à maxima quelque chose par la loi. Oui, ça peut bien sûr être un risque. Mais signer une charte ou un label, ça veut donc dire qu'il faut du volontarisme, de la vigilance, de la patience pour que ce soit pas juste une question, comme je le disais, d'image ou de redorer son image, enfin de redorer son blason. Je pense qu'il faut être ni trop gourmand ni trop pressé, mais au contraire très persévérant et très fédérateur dans la démarche.
Effectivement. Nadine, vous nous avez parlé de chartes, de labels, outils et méthodes. Comment peut-on aller plus loin?
Alors, je reviens une fois de plus à ce que je disais au début, c'est-à-dire que les institutions, à mon avis, doivent se donner les moyens vraiment de vérifier l'application de la loi. On a par exemple observé que le rapport de situation comparée était un échec relatif dans les entreprises parce que très peu d'entre elles respectaient la loi. Donc la question, à mon avis, n'est pas forcément d'aller plus loin. Ce serait déjà vraiment de se donner les moyens de faire respecter la loi, de sanctionner les manquements, et ça veut dire de se donner les moyens de contrôle adéquats. Dans les collectivités territoriales en particulier, je rappellerai que la non-présentation du rapport de situation comparée des femmes et des hommes peut invalider le débat préalable d'orientation budgétaire. Donc ça, c'est quand même un point important à savoir. Et d'autre part, ça c'est une nouveauté également, la loi du 6 août 2019 instaure des pénalités financières en cas de non-respect des obligations légales de la collectivité en matière d'égalité professionnelle. Voilà, donc il y a aussi des contraintes à partir du moment où on se rend compte que les incitations ne suffisent pas. Mais évidemment, il y a des contraintes, soit organisationnelles, institutionnelles, juridiques et financières qui sont mises en place. Et puis, au-delà de la loi, ce qui me paraît important, c'est, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, d'acculturer la fonction publique à l'égalité femmes-hommes dès le parcours d'intégration des personnels et tout au long de la carrière. Ça ne devrait pas être une option de formation qu'on rencontre une fois tous les 5 ou 10 ans au mieux, mais vraiment une obligation. Et par expérience de formatrice sur ces sujets, même les agents non volontaires sur ces formations ressortent en général très sensibilisés, parfois bousculés d'ailleurs, par le constat des inégalités dans la fonction publique entre les femmes et les hommes. Et ça les amène à s'interroger sur leur représentation, sur leur pratique professionnelle. Ils ressortent vraiment avec un questionnement sur le sujet. Donc ça me paraît important, cette acculturation qui soit faite dès l'intégration et tout au long de la carrière. Et si j'élargis encore un petit peu la perspective, c'est dès la petite enfance qu'il faudrait développer une culture de l'égalité, qui qui devrait aussi faire partie des obligations de formation initiale et continue de tous les personnels en contact avec les tout-petits, dès la crèche, les enfants, les élèves en général. Il faudrait lutter de manière vraiment systématique contre les stéréotypes sexués qui polluent la société, que ce soit la publicité, certains pans de la littérature enfantine, l'industrie du loisir, les jeux, les jouets, etc. Voilà. Donc tout ça, à mon avis, s'inscrit dans une démarche qui est beaucoup plus large. Et ce que j'aimerais, moi, pour terminer, c'est que l'égalité femmes-hommes devienne en fait une compétence obligatoire au niveau municipal, le niveau le plus de terrain possible, et une priorité permanente de l'action publique et de la fonction publique.
Effectivement. Nadine Jasmin, merci infiniment pour cet éclairage.
Merci à vous.
Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, j'espère qu'à l'écoute de l'intervention de Madame Jasmin, vous avez retenu que des cadres de l'égalité professionnelle femmes-hommes sont à votre disposition si vous souhaitez ou devez lancer une démarche d'égalité dans votre collectivité. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur le site radio.cnfpt.fr. À très bientôt pour une 11e émission sur le sujet de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Au revoir.
Au revoir.
Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.